Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion du colloque « Éthique des médias, de l'information au marché » tenu à Montréal en avril 2009. Welcome to the audio podcast of the Media Ethics from Information to Markets Conference that took place in Montreal in April 2009.
Speaker is Lisa Marie Gervais. She graduated in journalism and political science in Montreal and at Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po Paris. She's an independent journalist. She worked for several newspapers. The list is very long. La Presse, La Gazette des Femmes, L'Actualité, Espace, Québec Science, Elle Québec. She's currently working for Le Devoir. And thanks to numerous grants, she was able to travel around the world and to make several reportages for the press and the radio. And she's currently a member of the board of Association des Journalistes Indépendants du Québec. Thank you very much.
Thank you. Merci beaucoup. I guess, Mr. Applebaum, you were talking about, when you referred to journalists, you were talking about not freelancers, because I will show you different situation. I will talk from their point of view. So, I'm sorry, I tried to speak really slowly in French, but I do it in French. C'est correct. Merci de l'invitation. C'est intéressant de parler d'opposer éthique, enfin, de parler d'éthique, de médias, puis du monde des affaires, des entreprises de presse. Je regardais récemment. En Amérique latine, il y a des journalistes qui s'interrogeaient, qui tenaient une table ronde, et ils opposaient éthique et passion. Et en fait, c'était comment faire une couverture journalistique équilibrée d'un match de la Coupe du monde de football. Donc, je trouvais quand même ça intéressant. Ici, on s'intéresse plutôt à la relation entre l'éthique journalistique puis les affaires dans ce cas-ci. Comme on le disait dans la présentation, je suis une journaliste indépendante. Je vais utiliser pigiste pendant la présentation, là, parce que là, il y a un débat infini, hein, puis on ne s'embarquera pas là-dedans. Mais je travaille comme surnuméraire au Devoir, donc c'est un joli terme pour dire que je fais le même travail qu'un journaliste, mais j'ai un statut précaire, donc je n'ai pas de sécurité d'emploi. Mais bon, ça fait quand même 3 ans que je suis là, donc ça devrait bien aller. Je vais prendre cette tribune-là, non pas pour livrer un plaidoyer larmoyant, là, mais je vais certainement en profiter pour dresser un portrait de la situation des pigistes, qui est quand même assez méconnue. Et vous me pardonnerez de donner des exemples peut-être qui ont plus à voir avec la presse écrite, parce que c'est ce que je connais le mieux, puis c'est là aussi où je pense que le bassin de pigistes est le plus grand. Alors, aujourd'hui, dans notre merveilleux monde du journalisme, bon, vous savez, on a des entreprises de presse de plus en plus concentrées qui veulent offrir un produit au moindre coût et qui sont parfois contraintes qui sont soumises à des coupures budgétaires, qui sont aussi pris dans une très, très forte concurrence. Et de l'autre, on a des journalistes aussi qui sont très dans une logique de compétition, en fait, qui compétitionnent avec d'autres journalistes, qui travaillent en solitaire pour des tarifs au feuillet souvent dérisoires, dans des rapports de force complètement inégaux, sans aucune garantie de paiement, sans contrat, sans assurance, forcés de céder leurs droits d'auteur dans la plupart des cas. Et je me suis demandé, lorsque ces deux réalités-là se rencontrent, quelle place il y a pour l'éthique? Donc, il est possible, effectivement, on peut s'imaginer que dans un rapport de force aussi inégal, que les pigistes soient parfois contraints d'effectuer des manœuvres consciemment ou non susceptibles de heurter les principes de l'éthique journalistique. Et on va voir comment finalement ces manœuvres-là peuvent constituer une menace à la qualité de l'information. Et puis je voulais qu'on réfléchisse aussi sur les droits et les devoirs des journalistes et puis jusqu'où ils vont ces devoirs-là. Est-ce qu'on doit leur faire porter tout le blâme? Et puis en terminant, peut-être je vais parler un petit peu de ce qui se fait ailleurs, en fait, dans d'autres pays qui ont davantage poussé la réflexion et puis qui se sont vraiment intéressés au statut de pigiste puis qui ont tenté d'encadrer ces conditions de travail. Alors, le pigiste québécois en chiffres, parce que je pense qu'on ne sait pas exactement hein, qui est le pigiste. Il y a peu, effectivement, de sondages, d'enquêtes, de recensements parce que, pour une simple raison, c'est que c'est qui est journaliste? Est-ce que quelqu'un qui a une formation universitaire ou pas, qui écrit bien, peut être journaliste? Est-ce qu'un blogueur qui tient une rubrique quotidienne avec l'information est journaliste? Donc, c'est très difficile, puis ça devient très vaste. Mais n'empêche, il y a eu deux grandes enquêtes, une en 92, c'était menée par le département de sociologie de l'UQAM, notamment, puis l'Association des journalistes indépendants du Québec, donc auprès de 100 pigistes. Et il y en a une autre 10 ans plus tard, en 2002, qui avait été menée par la FPJQ, qui est la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Et c'est intéressant parce qu'en 10 ans, la situation n'avait à peu près pas changé, sinon qu'elle s'était aggravée. Enfin, je parle des conditions de travail des pigistes, évidemment. Et là, il y aura une prochaine étude là, qui va sortir incessamment. C'est Martine Damour, une ancienne journaliste pigiste. Elle est maintenant à l'Université Laval, au département des relations industrielles. Elle va s'intéresser aussi aux journalistes pigistes, donc on aura des statistiques fraîches. Mais en attendant, je vous dirais qu'il y a 4300 journalistes au Québec. Grosso modo, on trouve 8% de cadres, 53% de salariés et un 25% de pigistes et contractuels. Le pigiste a 38 ans en moyenne, a 14 ans de scolarité et plus de 10 ans d'expérience en journalisme. Et moi, j'ajouterais bientôt que le pigiste, finalement, pourrait être quiconque sort d'une école de journalisme. Les tarifs au feuillet, je ne sais pas si tout le monde est familier avec le terme de feuillet, c'est 250 mots, 1500 caractères, espace compris. Dans un quotidien, c'est entre 50 et 75 $ le feuillet. Et dans un magazine au Québec, ça peut varier entre 75 et 250 $ pour les pigistes, même 300 $ peut-être pour les pigistes vedettes. En moyenne, le pigiste québécois gagnait en 92, quand la première enquête avait été faite, 35 000 $ par année et 33 000 $ en 2002. Donc, ça a un petit peu baissé. Et on dit que ces revenus tirés exclusivement du journalisme, donc de ces piges, c'est environ 20 000. Dans certains cas, ça peut être 15 000 $ Donc, c'est à peu près la moitié de son salaire. Donc, ça implique qu'il y a vraiment la moitié de son salaire annuel qui vient d'une autre source. Alors, voilà pour les chiffres. Le sondage concernant les conditions de travail, la situation dans laquelle évolue un journaliste pigiste, donc, le sondage de 2002, il montrait que les deux tiers des journalistes indépendants n'ont pas de contrat écrit quand ils écrivent. Et ils doivent signer presque toujours une renonciation à leurs droits d'auteur. D'ailleurs, il y a des recours collectifs en ce moment qui sont menés par l'Association des journalistes indépendants du Québec. Donc, accident, maladie, poursuite judiciaire, les pigistes doivent assumer absolument tous les risques. Et ça, c'est sans compter deux importants risques qui sont les risques de non-prestation, c'est-à-dire de ne pas être payé, ou le risque de sous-emploi. C'est notre angoisse de toujours manquer de contrat. Et comme bien d'autres travailleurs autonomes, on n'a pas de droit au chômage. Enfin, on a le droit de chômer, mais on n'est pas payé pour ça. Alors, aucune règle formelle ne régit l'entrée dans la profession de journaliste. Hein. Il n'y a pas de scolarité précise pour être journaliste, pas de stage obligatoire, il n'y a pas d'examen d'entrée, il n'y a même pas d'obligation légale d'adhérer à une fédération ou une association de journalistes. La carte de presse est même plutôt décorative, je dirais. Donc, dans ce contexte où n'importe qui peut s'improviser journaliste, il faut comprendre que la compétition est plus féroce, hein. On a un plus grand nombre de joueurs, les règles du jeu le permettent. Il n'y a même aucune définition officielle et commune du métier de journaliste au Québec. La plus connue, c'est celle de la FPJQ, qui dit que « est journaliste celle ou celui qui, sans être autrement en conflit d'intérêt avec la pratique du journalisme, a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice d'une fonction de journaliste pour le compte d'une ou plusieurs entreprises de presse québécoises ». Bon, là, déjà, l'exercice de fonction de journaliste, encore là, c'est quoi? C'est pas non plus défini. On n'a pas de code de déontologie unique et obligatoire, comme c'est le cas dans d'autres pays du monde. Et puis, comme c'est le cas aussi dans, bon, dans certains... Il y a des codes de profession, là, pour notamment ingénieurs, avocats, tout ça. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec a adopté un guide de déontologie, mais il n'y a pas de valeur coercitive. Hein, c'est un guide, donc. Il y a certains médias aussi, je pense à la presse, Radio-Canada, se sont dotés de codes d'éthique internes, plus ou moins élaborés. Il y a aussi des conventions collectives de syndicats de journalistes qui incluent des clauses à caractère déontologique, notamment sur les questions de conflit d'intérêts, ça nous intéresse. On aime bien ça, au devoir, dire qu'à la presse, ils font des voyages, toutes dépenses payées par des... qui se font payer des billets d'avion à Hollywood par MGM Studios, on ne sait pas, mais enfin là, ils ont pris le taureau par les cornes, puis ils ont enchâssé ça dans leur code d'éthique. En fait, il y a le Conseil de presse du Québec, qui est un tribunal déontologique, mais il y a d'autres autorités que morales, et puis bon, il entend les plaintes contre les médias ou les journalistes. Mais il n'y a pas le pouvoir de prononcer des sanctions nécessairement. Donc, voilà pour le portrait de la situation. Donc, d'un autre côté, on a la logique de marché, là, que vous connaissez très bien. Je ne vous apprends rien. On exerce notre profession dans un environnement où les entreprises évoluent dans une économie mondialisée. L'information, surtout les capitaux, sont très mobiles. Ça peut se retrouver de l'autre côté de la planète en orientant. Même chose du côté des grands médias qui ont une grande pression pour avoir un rendement compétitif. Sinon, ils vont délocaliser leurs activités ailleurs ou même fermer. Je lisais dans un livre intéressant qui fait un beau portrait de la situation des pigistes, ça s'appelle « Les nouveaux journalistes », donc écrit par deux pigistes, Christiane Dupont et Pascal Lapointe. On disait que au Québec, parmi toutes les sociétés occidentales, c'était au Québec où on trouvait la concentration de presse la plus importante. Dresser un petit portrait pour ceux qui ne seraient peut-être pas familiers avec le milieu. Donc, on a 10 quotidiens francophones, dont 7 appartiennent à GESCA et 2 à Québécois. Je vous laisse deviner le dernier, c'est le devoir. 2 quotidiens anglais, 56 journaux communautaires, près de 200 hebdos dominés par Québécois et Transcontinental. En magazine, c'est un peu la même chose. On a les deux mêmes géants, Québécois et Transcontinental, qui se partagent à peu près toutes les... la Gazette, 2 quotidiens anglais, la Gazette et... Ah oui, c'est ça. Oui. Donc, en magazine, c'est un peu la même chose. On a les deux géants, Québécois et Transcontinental. Un troisième joueur qui est Rogers, qui publie l'actualité, Châtelaine, l'actualité médicale. Il y a un indépendant d'importance quand même, le Selection Reader's Digest. Les acquisitions, les fusions, les récentes difficultés économiques ont fait disparaître certains médias. Bon, il y a eu beaucoup de fusions. Certaines publications se sont disparues. La compétition et la concurrence ont obligé les médias à... un peu révolutionner leur pratique, à faire tout avec plus vite, avec moins de moyens. Conséquence, il y a beaucoup de mises à pied, il y a un plus grand bassin de pigistes où la compétition est encore plus forte. Et ça a un effet de nos tarifs baissent forcément. Et bon, le marché est précarisé. Les entreprises sont prêtes à tout pour s'attirer des revenus, pour économiser. Radio-Canada coupe 800 postes. Global remercie ses journalistes qui sont en région. Transcontinental a demandé à ses journalistes de réduire son nombre d'heures. Et bon, ça, c'est sans parler de tout le branle-bas de combat dans la presse puis les médias électroniques ailleurs dans le monde. Les entreprises sont vraiment prêtes à tout, il faut comprendre... pour renflouer leur coffre. D'ailleurs, une anecdote à ce sujet, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 10 jours, il y avait le Los Angeles Times qui a publié c'est comme une infopub. En fait, ça avait la même typographie, la même titraille que les autres informations qui sont normalement sur la une du journal, mais c'était une publicité qui vantait les mérites de la dernière série Southland, qui est diffusée sur NBC. Et puis l'article portait la mention « publicité » avec le petit logo d'NBC, mais c'était en tout point vraiment semblable à un article. Donc, il y avait vraiment, c'était très facile de se confondre. Donc, là, les employés du journal étaient vraiment en colère. Puis tout ce que trouvait à répondre l'éditeur, c'était qu'il a pris cette décision-là de diffuser cette publicité-là sur la une en raison des difficultés économiques auxquelles son quotidien est confronté. Donc, on est loin de l'éthique à la Hubert Veuve-Mairie, le le fondateur du journal Le Monde, qui lui coupait un peu de pub même quand il y avait trop de bons textes, puis il refusait de mettre une image en une systématiquement. Je pense c'est toujours le cas. D'ailleurs, là, il y a une caricature maintenant en une du Monde, mais c'était jamais d'image ou de publicité sur la une. Alors bon, pour revenir un peu, je voulais vous parler du rapport de force inégale qui existe entre les pigistes et entrepreneurs médiatiques, appelons-le ainsi. Bon, il faut comprendre que la pige est partout. On s'imagine pas, mais dans le milieu de la presse périodique, il y a 90% des articles ou illustrations qui sont faits par une main-d'œuvre extérieure à l'entreprise, donc beaucoup de pigistes. Alors, si vous prenez l'actualité, par exemple, on sait pas, mais il y a 4 journalistes permanents à l'actualité. C'est un bassin d'une cinquantaine de collaborateurs, mais il y a 4 journalistes. Jobboom, je pense que c'est un. Des pigistes, ça, vous le voyez quand vous prenez la première page du magazine, vous voyez rédacteur en chef, journaliste permanent, ensuite, il y a collaborateur. Et là, vous avez toujours une liste de gens. Le journaliste pigiste est vraiment inséré dans une organisation qui le dépasse complètement. Les règles du jeu sont celles de l'entreprise, finalement, parce que c'est l'entreprise qui connaît son produit. Elle connaît bien le produit qu'elle sous-traite. Elle trouve le moyen de le contrôler. Elle contrôle même les contrats et les tarifs. Évidemment, cette situation-là est aggravée par la concentration de la presse. Avant, les journalistes avaient peut-avoir une vingtaine de clients différents, vingtaine de publications pour qui on écrivait. Par contre, là, tout est concentré. Donc, c'est sûr que si vous êtes sur la blacklist de, je sais pas moi, de quelconque publication d'Affaires Plus ou Transcontinental, ben c'est peut-être tout le groupe qui va pas requérir vos services. Là, c'est ça. Et il y a des phénomènes inquiétants aussi. Je nommerai l'exemple de l'hebdomadaire ICI, qui depuis le printemps passé, là, exactement au printemps 2008, a demandé à ses journalistes pigistes de signer un contrat de cessation complète des droits d'auteur et des droits moraux sans compensation. Donc, c'est un contrat qui permettait notamment à Québécois de reproduire des textes dans d'autres publications de Québécois. Et bon, jusqu'à tout récemment, le chroniqueur littéraire Michel Vézina a été remercié. Il a signé sa dernière chronique, puis lui pense que c'est directement lié au fait qu'il n'a pas voulu signer ce contrat-là. Donc, la montée de la précarité a des incidences importantes, moi, je pense, sur la pratique professionnelle des journalistes, parce que place le journaliste dans un rapport marchand à l'objet de son activité, puis soumet son travail à une logique commerciale qui détermine en grande partie sa survie dans cette profession-là. Les pigistes, c'est carrément des sous-traitants. Hein. On ne vous appelle plus pour vous dire « Bonjour, j'ai une idée d'article sur l'industrie du vélo. À quel prix vous me feriez ce texte-là? » C'est vraiment « Bonjour, je veux un texte sur le vélo et voici votre tarif à prendre ou à laisser. » Mais c'est vraiment, il n'y a aucune négociation. Je discutais récemment avec le président de l'Association des journalistes indépendants du Québec. Je lui disais « Est-ce que tu penses que… » C'est bien de dire, c'est pas faux de dire qu'on négocie pas trop notre salaire. Il y a aucune négociation possible de tarif. Moi, ça m'est jamais arrivé. Donc, dans cette précarité-là croissante qu'est l'éthique, sans passer en revue tous les principes de l'éthique journalistique, là, d'autant qu'ils diffèrent légèrement selon les codes ou les guides de déontologie, on pourrait quand même tous s'entendre pour dire que la recherche honnête de la vérité, c'est un principe fondamental de notre profession, et que le journaliste a l'obligation de fournir une information équitable, exacte, complète, équilibrée, donc vraiment de qualité, et doit faire preuve d'indépendance vis-à-vis des thèmes et des personnes dont il parle. Donc, ça, c'est toute la question de l'indépendance journalistique. C'est pas toujours possible, par contre, avant de parler des droits là, du journaliste, selon moi, font partie de la solution. On pourrait parler des limites des devoirs des journalistes. Donc, ils ont, comme je le disais, le devoir d'offrir une information de qualité, d'indépendance. Mais parfois, il y a menace à l'éthique et à ces valeurs-là dans certains contextes. Par exemple, on peut s'imaginer que dans un rapport de force inégal, les journalistes indépendants ne vont pas dénoncer les pratiques douteuses ou injustes d'un média concurrent de peur de s'aligner à un groupe de presse au complet. Hein. Donc, il y a comme un mutisme un peu malsain. La question de l'indépendance, c'est vraiment intéressant. C'est des débats infinis. Je veux dire, un journaliste pigiste tire à peu près la moitié de ses revenus de la pige, l'autre moitié d'activités connexes. OK, si vous êtes spécialiste dans, je sais pas moi, l'alimentation, puis comme sideline, vous faites, vous travaillez pour un festival de cinéma. Bon, il n'y a peut-être pas tellement de liens, vous faites de la traduction, mais il y a vraiment des cas où il y a des journalistes qui sont engagés, qui font des relations publiques pour des festivals de cinéma parce qu'ils veulent gagner leur vie, puis parce qu'on leur a trouvé un bon contrat, et puis qu'après, ils se retrouvent à faire des critiques de films parce que ça donne aussi qu'ils ont une très, très bonne connaissance du milieu, puis sans être complètement en conflit constamment. Je pense à un cas très concret où moi, cet automne, je n'avais pas de contrat au devoir. J'ai travaillé pour le journal Forum de l'Université de Montréal, j'étais dans le bureau des relations publiques. Puis il m'a été donné, à un moment donné, une fin de semaine, de remplacer au devoir. Je veux dire, j'aurais été radiée. S'il y avait eu un ordre, je pense que j'aurais été radiée. Mais c'est très terre-à-terre ce que je vous dis, mais c'est un conflit un peu irréconciliable. Je veux dire, il faut gagner notre vie. Comment on gère ça? L'indépendance, pour moi, il faut y tendre, mais c'est un peu un mythe dans notre contexte. Et il faudrait que ça change. Le pigiste aussi est de plus en plus amené à se transformer en entrepreneur pour vendre son sujet. Hein. Il faut caser son reportage. C'est presque plus important que de le faire. Là. Si on ne le case pas, ce n'est pas vendable. Par exemple, un journaliste qui est payé à la pièce ne peut pas suivre des dossiers à long terme. Hein. Il va faire des sujets plutôt superficiels parce que c'est payant au lieu de faire des enquêtes approfondies. Il est soumis à l'arbitraire des patrons. Bon. Aujourd'hui aussi, dans le milieu de la pige, hein, c'est le règne de la capsule. On nous demande de faire des capsules, des petits encadrés. Faut que ça soit court. Les gens sont tannés de lire. Ils ne liront pas. Donc, ça prend des courts textes sur des sujets accrocheurs. On peut imaginer qu'il va y avoir des secteurs surreprésentés comme l'économie ou la mode dans ce contexte-là, puis qu'il y a d'autres sujets dont on ne parlera pas. Donc, on n'aura pas une information plurielle. Elle ne sera pas exhaustive. Elle ne sera pas de qualité nécessairement. Alors, peut-être brièvement parler un peu des solutions. Puis en fait, c'est intéressant de voir ce qui se fait ailleurs. En admettant ce diagnostic-là, on peut voir quelques remèdes. Bon, pour qu'il y ait véritablement un changement, en fait, puis pour que ces menaces-là n'existent plus, il faudrait peut-être, premièrement, et puis je pense que c'est tout le discours aussi de l'Association des journalistes indépendants du Québec, c'est de vraiment changer les conditions du journaliste. Donc, en lui donnant des conditions décentes, là, on va éliminer certaines menaces. Par exemple, il faudrait que certaines choses soient réglementées par des lois. Il faut améliorer les conditions de travail, les assurances. Il faut avoir ce pouvoir de négociation-là, de la rémunération. Il faudrait des syndicats un peu plus. Tant que le marché ne sera pas réglementé au niveau de la concentration, tant qu'il va être imparfait, l'adoption d'un code de déontologie qui serait comme un engagement formel à respecter certains principes éthiques pour être envisageable, en autant que ce ne soit pas contraignant pour les pigistes. Il ne s'agit pas de dire, tu as travaillé, Lisa-Marie, tu as travaillé pour Forum, donc tu es radie, tu n'as plus le droit d'exercer ta profession. Il ne faudrait vraiment pas que ce soit dans cette logique-là. Il y a Marc-François Bernier, qui est professeur à l'Université d'Ottawa, qui a écrit la fameuse brique que nous tous, on a lu, journaliste, éthique et déontologie journalistique. Lui, il s'était présenté devant une commission parlementaire en 2001 pour dire que le gouvernement devait vraiment intervenir, venir en aide aux acteurs défavorisés, qu'il les appelait, défavorisés par la concentration et la convergence, notamment en accordant rapidement un statut particulier aux journalistes pigistes, un statut qui va reconnaître leurs droits d'auteur, l'obligation pour les dirigeants des médias de négocier avec les représentants des journalistes, en s'inspirant un peu du modèle de l'Union des artistes. Donc, c'était une avenue intéressante. Il recommandait donc d'accorder un statut légal aux journalistes indépendants, afin de leur donner un levier puis un meilleur rapport de force dans leurs relations d'affaires avec les dirigeants des médias. L'autre problème dans ça, on ira peut-être plus amplement si vous avez des questions là-dessus pendant la période de questions, mais l'autre problème, c'est que l'Association des journalistes indépendants du Québec, elle a les mains liées en ce moment. Sa légitimité, elle est contestée en cours. Donc, c'est comme si les grands médias, les grands patrons de presse ne veulent pas reconnaître l'AGIC comme étant une entité qui peut défendre les journalistes pigistes. Elle veut négocier de pigiste à pigiste, évidemment. C'est dans son intérêt. Je conclurai en attirant votre attention peut-être sur certains cas, notamment en Belgique. Il y a l'Association des journalistes professionnels qui propose la mise en place d'un journalisme équitable, un peu comme comme le, enfin, l'idée du commerce équitable, partant du fait qu'il y a une égalité dans les rapports de force, bien, propose une charte, en fait, garantissant aux journalistes indépendants des barèmes minima décents dans les tarifs, et puis une instance déontologique qui puisse, enfin, sur laquelle on puisse s'appuyer. C'est un peu ce que fait la FPJQ en ce moment, je vous dirais, avec son guide de déontologie, puis le genre d'action qu'elle fait, mais ça inclurait les indépendants. Il y a un gros travail en Belgique qui est fait à ce niveau-là. Et peut-être l'exemple auquel on revient tout le temps, qui n'est pas parfait, mais c'est la France, en fait. La France c'est unique au monde. Le journaliste pigiste est un salarié au sens de la loi. Il bénéficie de principes... des droits correspondants définis par le Code du travail puis la Convention collective des journalistes. Ils ont des congés payés, assurance chômage, retraite, tout ça. Et c'est vraiment particulier. Ceci dit, il y a beaucoup de journalistes encore, étant donné qu'il y a un énorme bassin de pigistes qui n'osent pas revendiquer ces droits-là parce que, parfois, on n'a pas de boulot. Quand la compétition est trop forte, le patron de presse va aller voir ailleurs. Alors, en bref conclusion de 30 secondes, je dirais que je ne vais pas parler beaucoup du plaisir quand même incommensurable qu'on a à faire notre métier parce qu'il y a quand même il y a une liberté dans ce métier-là. Il y en a qui ont pu choisir nos horaires, nos sujets aussi parfois quand même, les sujets qu'on a envie de traiter. Il y a quand même beaucoup de variété. Hein. On peut être appelé à travailler une journée sur un sujet, le lendemain sur complètement autre chose. Donc, il y a une certaine souplesse aussi. Mais n'empêche, dans un contexte de concentration de presse, puis surtout de la montée de la précarité, là, il y a lieu de se poser certaines questions, les contrats, sur la formation, les droits d'auteur et les normes professionnelles, c'est des questions vraiment qui se posent à la communauté des journalistes et pas seulement celle des pigistes, là, vraiment à tout le monde. Il faut qu'il y ait une solidarité plus grande et je dirais que c'est la qualité de l'information qui est en jeu.
So I'm going to ask a question in English just for the benefit of those of you who don't speak French. So Lisa Marie painted a very compelling picture of the situation of freelancers in the Quebec media establishment, taking up more and more sort of greater proportion of the situation. As I see it, there's sort of three ethical relationships that have to be thought about. The first one, the most obvious one, is the one between media outlets and their freelancers. And I think you painted a picture which probably convinced everybody in the room that there is a problematic moral asymmetry between the big media outlets and essentially a sort of the increasing proportion of the work that is done in conditions that are ethically very difficult to defend. So, in a way, it's the most sort of c'est l'exemple le plus criant. It's the most sort of blatant example of a morally problematic relationship here. But because of that, it's in a way philosophically maybe the least interesting one. There's so many things that are wrong with it that. But I want to highlight two other ones. Towards the end of your presentation, you talked about the way in which the greater proportion that freelancers occupy affect the quality of information, right? And I wondered if you could go a little bit more into that. In what sense is it the case that... So one thing that you said at the end, which you pointed out as a pleasure, as someone who often feeds the media, you know, as someone who's called very often to comment on this or that event, I can tell when I have someone at the end of the line who has been told, today you have to talk about this issue and tomorrow another issue, because they don't know what they're talking about. So, you know, I ended up giving an impromptu 20-minute philosophy lecture to a journalist the other day on conflict of interest around the Zampino affair. That'd be too long to go into. Because... you know, she had no idea what she was talking about. And you could tell that the day before, she'd probably been doing something on... What? Hockey. Oh, hockey. No. Hockey is taken very seriously. We don't get just anybody to talk about hockey in this province, especially not about the violence visited upon us by teams from Boston. So I wonder if you could say a little bit more about that. And there's when you talked about journalisme équitable, there's another moral relationship between, which is the relationship of people like me to the media. Do you think that we have a moral obligation to be more scrupulous, perhaps, in who we decide to talk to? Would it be a kind of pressure on the media establishment that you think might work for people to say, well, before I talk to you, I want to know how it is that you treat your journalists. And if, you know, you treat them in a way which I judge to be, I'll just talk to your competitor. I mean, it's something that just occurred to me as I was listening to you. But do you think that the problem is so widespread that it would basically mean that we just end up talking to, well, nobody actually, maybe to Farah. Or do you think that this is something that could push in the direction of getting sort of equitable journalism standards off the ground? So,
mais c'est une solution très, très intéressante. On en a déjà parlé plusieurs fois à l'Association des journalistes indépendants. C'est clair qu'il faut qu'il s'installe une sorte de mécanisme. Donc, pour faire pression sur les dirigeants de presse, c'est dangereux parce qu'on ne veut pas... Nous, comme pigistes aussi, on a une crédibilité à défendre. On parlait tout à l'heure du fait que... quand vous disiez qu'il n'y a pas tout le monde qui est permis dans une, qui est autorisé à aller dans une conférence de presse avec Barack Obama, par exemple, on s'est posé la question quand il y a eu les événements pour le 400e de Québec. On se disait, mais qui va être journaliste? Qui va être autorisé? Il y a des journalistes de partout dans le monde, en plus, qui vont venir. On se disait, mais où est-ce qu'on va mettre la ligne, là? Où est-ce que les organisateurs du 400e vont dire, ben là, on arrête parce que la salle est pleine, ou qui va avoir le droit d'être là? Donc, c'est clair que c'est une préoccupation. On a notre crédibilité, donc on veut avoir accès à l'information. En même temps, on voudrait que les médias, les patrons de presse croient que, en m'engageant moi, par exemple, vous allez être certain d'avoir une bonne qualité d'information. Par contre, je peux pas décider que ça se pourrait que à côté de moi, il y ait trois autres pigistes qui ont travaillé avec ce même patron de presse-là et ça s'est très mal passé. Donc, ça a une incidence sur mon travail parce que j'ai une perte de crédibilité. On va avoir tendance à m'offrir un moins bon salaire. Je pense qu'en mettant une pression sur... peut-être comme intervenant, comme vous, M. Van Stock, qui est très présent dans les médias, qui acceptait toujours de parler aussi à... Enfin, mais souvent, vous êtes souvent très disponible. Mais je ne sais pas aussi si vous parlez à tout type de médias. Mais effectivement, ça me semble, par contre, d'un point de vue philosophique, très, très possible, très logique, très intéressant. Je pense que dans les faits, le pouvoir est beaucoup trop grand. Je pense que beaucoup trop grand.
Sur la question de la qualité, est-ce que tu peux en dire plus sur comment la disproportion de pigistes affecte la qualité de l'information que le public reçoit?
Bien, en fait, ce que j'avançais, c'était plutôt que c'est le fait que, en ayant une grande proportion de pigistes et le choix, ça laisse énormément de marge de manœuvre au patron de presse qui, lui, va contrôler son produit. À ce moment-là, tu sais, dans un marché où il y a plusieurs différents patrons de presse et plusieurs différents pigistes, enfin, il y a... Probablement, si j'ai une idée particulière, probablement, je vais trouver un preneur. Quand on a trois patrons de presse qui ont des intérêts économiques bien différents, en plus qui sont en compétition avec le voisin, et qui finalement, mais ça c'est un autre débat, mais tendent un peu à faire tous la même chose, parce que ça a cet effet pervers là aussi, la concurrence, à un moment donné, et moi je le vois, il y a même un style d'écriture qui s'est en train de s'installer, hein, s'uniformise énormément, et c'est là que je voyais qu'il y avait une perte de qualité d'information, parce qu'on... Évidemment, on perd là, cette pluralité-là. Cette qualité-là, elle est moins là parce que, ben, d'abord, on ne traite même pas de tous les sujets. On va les traiter de façon très peu exhaustive. Quand je parle du règne de la capsule, là, c'est pas une caricature. Là. Je veux dire, on se fait constamment dire, fais-nous comme, au lieu d'un gros texte suivi, les gens ne vont pas lire, fais-nous quatre encadrés avec la grosse photo. Je vois pas en quoi je peux faire le tour de la question avec un encadré. Je pense que c'est une menace.
Bonjour, je suis ici à titre d'ingénieur. J'étais intéressé par le thème parce que c'est la dimension donc professionnelle qui m'amène. Question, et donc merci pour votre exposé, j'ai beaucoup aimé. Une question très technique, très précise. Est-ce que le mot journaliste est protégé? En d'autres termes, est-ce que c'est un titre?
Ce n'est pas un titre réservé.
J'arrive. C'est très, très important. Mm-hmm. Parce que si ce n'est pas un titre, donc, sans jouer sur les mots, c'est ouvert à tout le monde, comme qui dirait. Donc, n'est-ce pas, on ne répond pas à un code de déontologie. Je n'ai pas dit éthique. Donc, on n'appartient pas à ce qu'on appelle une corporation professionnelle.
Non.
Donc, on a de comptes à rendre à personne. Mm-hmm. Et ce que vous avez dit à propos donc du pigiste, etc., ça, j'ai bien pris note de cela, parce que ce phénomène-là de pigisme, même s'il n'existe pas, en fait, la notion même, vous l'avez laissé entendre, la notion de salariat est en train de disparaître. C'est une notion qui est en train de s'effacer, et ce, dans toutes les professions, au sens le plus technique. On est de moins en moins salarié, donc on est de moins en moins sur la fiche de paye, etc., et de plus en plus, on vend des mandats. Alors c'est ça, donc si vous voulez me répondre un peu plus sur le titre, le notion de journaliste. Qu'est-ce qu'un journaliste dans le terme, n'est-ce pas, de responsabilité?
Mais c'est un sujet tellement criant d'actualité. J'étais membre du conseil d'administration de la Fédération professionnelle des journalistes l'année dernière. Ça a été, on avait une table, enfin une équipe de journalistes qui travaillaient là-dessus à temps plein. On hésite beaucoup à définir le terme. C'est un débat infini. Je peux vous dire que je serais très mal à l'aise avec le fait de je vous donne un exemple très concret. Mon propre frère qui a fait des études de doctorat en sciences et qui est d'ailleurs ingénieur à la Polytechnique, il est chargé de cours, en fait. Ben, il écrit pour Québec Science et il participe... donc, il a fait toutes ses études, il est revenu, il écrit pour Québec Science, il participe à l'émission Le Coach cette année à la télévision... comme journaliste, je veux dire, il a un peu jamais étudié là-dedans. Au début, ça m'a un peu agacée. Après, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que ça dérange, au fond? Il a le droit de faire ce qu'il veut s'il fait un bon travail. Mais ça m'a, du coup, parce que ses premiers textes, c'est moi qui ai repassé après dessus. Puis je les ai corrigés, puis j'ai dit, attends, c'est pas une thèse que t'écris, là. Il y a un style, il y a des notions, tu sais, qui sont reliées. Puis toute cette question-là aussi d'éthique, je veux dire, sachant qu'en même temps, il est chargé de cours, je me disais, bon... mais il était complètement un électron libre là-dedans. Ça m'a agacée au début. Puis en même temps, je dirais que... puis on est là-dedans, on est vraiment en train... on hésite beaucoup, beaucoup à définir... Là, il y a toute l'émergence du citoyen blogueur, je veux dire... je donne l'exemple de la presse, là, pas parce que... je dirais que je donne toujours des exemples un peu critiques de la presse, mais... pas parce que je suis au devoir, là, c'est parce que ça me vient l'idée comme ça, mais je sais qu'on encourage beaucoup, même Canoë le fait sur son site Internet, donc sur le site de Cyberpresse, vous avez une histoire, on laisse une place aux blogueurs citoyens, on s'en va vers ça, là, bientôt, ben, je pense qu'hier, ça a été aussi sûrement un des sujets abordés pendant la table ronde. Moi, je serais très mal à l'aise, je trouve ça un peu nazi de mettre une limite, mais c'est certain, monsieur qui posait la question, c'est certain qu'il va falloir baliser. Je pense pas que ça va passer par... c'est très difficile de réserver un titre. Hein. Un ingénieur, il y a des examens, comme je l'ai décrit là, dans ma présentation. Nous, je disais, il n'y a pas de scolarité obligatoire. Là. Moi, j'ai fait mon bac en journalisme, je suis allée me chercher une maîtrise. J'avais envie de faire une spécialité en sciences politiques, mais il n'y a pas de scolarité obligatoire. Il n'y a pas, comme quand on est professeur, une agrégation, un nombre de connaissances requis. Je veux dire, c'est la culture générale. Puis comme le disait si bien M. Weinstock, je veux dire, il faudrait qu'on sache tout sur tout. Une journée, on écrit sur la municipalité, le lendemain sur la mode. Je veux dire... ce serait très difficile, étant donné aussi qu'on parle finalement de l'information qui n'est pas vraiment un produit avec des règles. Ce serait très difficile, enfin, je serais très mal à l'aise, mais le débat est ouvert si vous avez des idées.
Donc, je suis très content. Ce que je trouve de bien avec ta présentation, c'est que tu as fait un excellent boulot pour nous montrer un peu bon, l'état de la situation et les effets pervers que... par exemple, certains mécanismes de concurrence peuvent avoir sur la situation des journalistes. Ce qui est très intéressant, parce qu'hier, on avait la table ronde sur la question de savoir la concurrence nuit-elle au journalisme. Et on a eu des journalistes qui nous ont dit, qui ont tous répondu oui à la question, pour ensuite se plaindre pendant une heure de la concurrence dans le journalisme. Donc, je trouve Pardon? Oui, exactement, oui, qui ont répondu non pour ensuite se plaindre de la concurrence. Ce que j'ai aussi trouvé intéressant dans ta communication, c'est la manière dont tu nous montres assez clairement ce qui est à la fois problématique et à la fois intéressant avec la profession même de journaliste. En fait, ce qui est problématique, c'est que ce n'est pas vraiment une profession. Les contours de la profession ne sont pas tellement bien définis.
Vous pourriez tous être des journalistes. C'est fascinant. Vous pourriez tous être des journalistes.
Exactement.
Même pas besoin d'avoir une belle plume dans certains cas.
Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que tu nous as montré quand même le côté un peu sombre de ça et les effets pervers. Et c'est intéressant parce qu'il existe quand même dans les débats publics un certain discours qui est beaucoup plus enthousiaste par rapport à cela, par rapport au contour un peu flou du journalisme. On parle de journalisme citoyen, etc., etc. On valorise, on célèbre la liberté, le fait que justement un peu tout le monde, un peu tout citoyen peut devenir journaliste, et, etc., etc. Et toi, j'ai l'impression que tu as essayé de j'ai l'impression que ton discours cherche à faire un peu contrepoids à cette espèce de discours très enthousiaste par rapport à la notion de journalisme citoyen. Par exemple, lorsque tu mentionnes le journalisme équitable, est-ce que le journalisme équitable est un peu... un contrepoids au journalisme citoyen? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu es sceptique par rapport à l'idée même de journalisme citoyen?
Bien, c'est sûr que tu as bien lu à travers cette présentation-là. Je ne pensais pas que ce serait si clair, mais je t'ai démasqué. Non, je dirais que moi, ça m'agace beaucoup, la notion de journalisme citoyen. Puis encore là, c'est vraiment pas parce que je trouve que c'est... parce que le point de vue du citoyen n'est pas valable. C'est plutôt parce que je crois que c'est un peu... on instrumentalise ce concept-là. Encore une fois, un patron de presse, un grand média, une entreprise médiatique va instrumentaliser ce concept-là. Donc, c'est un peu déguisé. Hein, c'est sous découvert de démocratie. Mais en dessous, dans le fond, c'est une logique mercantile de concurrence. D'abord, tous les autres le font, donc il faut le faire. Et on ne se pose pas trop de questions, je pense, jusqu'où ça s'en va, cette notion-là de donner la parole à tout le monde. Là, évidemment... Comme je l'ai dit, c'est la liberté d'expression est un droit fondamental, là, mais je m'interroge sur les desseins réels et les objectifs et les intentions réelles des patrons de presse, sachant aussi qu'ils sont très peu nombreux et qu'il y a un certain mimétisme qui est fomenté par la concurrence. Donc, je m'interroge vraiment sur... sur le côté positif, sur leurs bonnes intentions. Je me demande si c'est pas une façon de s'attirer juste un plus grand auditoire. Tu sais, puis ça paraît simpliste là, mais le marché québécois là est extrêmement restreint. Je sais pas si vous réalisez, comme de quotidiens francophones, il y en a un qui est en lock-out, l'autre qui est très content de ça, ou on sait pas, finalement moins content qu'il pensait, parce que quand même l'autre tire pas mal d'exemplaires même s'ils sont en lock-out. Et puis on a le Devoir qui est vraiment un joueur complètement à part, une espèce d'électron libre sur une autre planète. Et c'est tout. Alors, c'est quand même incroyable. Puis vous allez me dire, bon, on est juste 6 millions de francophones, puis tout ça. Puis là, j'ai parlé de Montréal aussi, puis il y a quand même des quotidiens ailleurs en région, là. Mais si on regarde Montréal, là, puis il ne faut pas se le cacher, là, les trois grands quotidiens francophones, c'est ceux-là. Puis il y a très, très peu de joueurs. C'est assez fascinant. Et c'est très facile, je trouve, de pouvoir s'approprier... Enfin, toutes les parts du marché, c'est très facile de jouer la carte du journaliste citoyen, je trouve, pour aller voler au quotidien voisin un peu de, pas d'auditoire, comme on dit, de lectorat. Je trouve ça, enfin...
Je vais poser ma question en anglais parce que c'est surtout pour les philosophes. There is this big asymmetry between the freelancers and the people that employ them. And an interesting parallel, I think, is between is in the academy right now, where you've got this massive asymmetry between the employers and the parallel is quite strong, because what you have is a cadre of very well-paid people who have jobs basically for life, defended by unions or other sorts of guilds. And what we're doing in both cases is continuing to not just employ but train a great deal of people we know aren't going to get jobs. The journalism classes in Canada are full of young people, mostly young women now, which is an interesting phenomenon. It's becoming like the nursing profession in a lot of ways. It used to be 50 years ago. So the question I have is, and maybe this is for the philosophers, is there a question of intergenerational justice at work here? Where what is the responsibility of an established set of institutions to the people who, it's not just that we're hiring people who out there happen to write, we're employing, we're training people. And then we give them, for instance, at The Citizen, we give people 6 internships a year for a year, like we do with academics, 1-year contracts. We send them out, go work somewhere else. And they bounce around in exactly the same way academics do, with no hope of employment. So I guess the question, is there a question of is there a moral issue?
Je pense que c'est une question intéressante. On se pose aussi la question au sein de la Fédération. En ce qui a trait à la formation des journalistes, par exemple, les jeunes qui sont dans les écoles, est-ce qu'il faudrait limiter les... Enfin, ce serait peut-être une façon de filtrer un peu dans la profession. On parlait tout à l'heure d'essayer de trouver des balises. Bon, est-ce qu'il ne faudrait pas limiter les entrées? En fait, déjà, le programme de journaliste, je vous le dis, il est très, très contingenté. Donc, à Montréal, il y en a à l'Université Laval, il y en a à Carleton, à Ottawa, il y en a également à l'Université de Montréal, l'UQAM. Je parle de celui que j'ai fait, mais même dans, c'est partout comme ça, c'est très, très, très contingenté. Est-ce qu'il faudrait former moins de journalistes? Je ne pense même pas que c'est pertinent, étant donné que de toute façon, tout le monde peut être journaliste. Mais il y a sans doute une responsabilité morale.
Et sur la solidarité intergénérationnelle?
Je vais répondre simplement, c'est peut-être juste tellement inexistant que... Mais c'est sans doute quelque chose que je suis découragée d'avoir à même y penser.
Je voulais intervenir sur la qualité de l'information, parce que, M. Wenchok, vous avez dit comment la qualité de l'information, comment la précarité des pigistes se retrouve dans les problèmes de qualité de l'information. C'est dans la méconnaissance des enjeux, la méconnaissance des perspectives et l'incapacité, souvent, d'utiliser les expressions concrètes, les vrais mots. Je trouve ça pathétique. Moi, je m'intéresse à la presse depuis plus de 25 ans. Et on lit même... ce que je veux dire, c'est que ça tire aussi l'ensemble du milieu journalistique vers le bas. J'ai lu un article d'André Pratt, qui n'est quand même pas le dernier des journalistes au Québec, un éditorialiste dans lequel il parlait de télévision d'État. Or, c'est une société d'État et une télévision publique. Nous ne sommes pas en Corée du Nord. Et ça, vous avez dit, c'est des détails, mais c'est plein de détails comme ça. Et donc, les mots qui sont utilisés, c'est vraiment catastrophique. Moi, je suis dans une bataille avec mes étudiants en sciences politiques pour leur faire utiliser les bons mots. Et ils me regardent et maintenant, ils ont compris ce que je veux. Ils utilisent sans arrêt les mauvaises expressions. Et on tolère beaucoup, c'est des approximations au lieu de précision. C'est relié au pigiste parce que quand une personne a moins de connaissances d'un dossier, elle est nécessairement portée à faire des erreurs de genre. Là. Télévision, et là où je dis que ça tire l'ensemble du journalisme vers le bas, c'est qu'on voit aussi des journalistes qui sont des personnes qui sont tout à fait salariées et qui vont se laisser aller finalement à dire télévision d'État. Et même les ministres disent ça. Donc, c'est vrai que c'est généralisé, mais il reste qu'ils sont moins... Les pigistes n'ont pas la chance de travailler longtemps sur des dossiers, sont plus susceptibles de tomber dans ces pièges-là. Donc, ce n'est pas leur faute comme telle, mais il reste qu'il y a des expressions qu'ils vont beaucoup, beaucoup moins connaître. Et pour l'ensemble de la presse, et là, c'est vrai que si il y a véritablement... Je ne sais pas quelles sont la proportion d'articles dans les grands médias qui sont publiés, qui sont écrits par des pigistes. Vous avez cité 90% pour des magazines. Est-ce qu'on a les chiffres pour les journaux, comme La Presse, par exemple?
Non, je ne les ai pas, mais je pense que c'est dans La Presse. Non, j'avais juste le chiffre pour La Presse périodique. Okay. Parce qu'il y a beaucoup moins de pigistes dans les quotidiens aussi. Il ne faut pas se le cacher. C'est beaucoup en magazine.
Bon, en tout cas, de toute manière, cette question, elle est largement répandue, mais c'est plus difficile pour quelqu'un qui travaille moins longtemps sur des dossiers, de connaître les nuances et puis de présenter les perspectives d'une manière plus complète.
Là-dessus, est-ce que vous avez...
J'aurais juste qu'il y a beaucoup de salariés aussi qui ont connaissance de leur dossier et qui ne s'expriment pas mieux. Mais bon, non, j'ai rien à ajouter. Ça.